le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma, avec trois voix. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, un sommaire un peu particulier, surtout de ta part Marine, parce que tu as vu des films qui sont sortis depuis un petit moment.
C'est ça, mais voilà, qu'il fallait voir quand même. Donc il y a Strictly Criminal, mais ça je savais que j'allais avoir un mal de chien à le dire. Je vais galérer avec Johnny Depp et le nouveau Terrence Malick qui était bien sûr passé à Cannes cette année, c'est-à-dire The Knights of Cup.
Et puis toi Manu, un film qui sort alors le 9 décembre.
Oui, Subora, de l'italien Stefano Solima, et puis Marguerite et Julien de Valérie Donzelli, qui est sorti mercredi dernier.
Et puis on a aussi vu, avec toi Manu, eh bien le film Le Pont des Espions de Steven Spielberg. Ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test avec en plus eh bien, six petits extraits à écouter. Il faudra trouver le titre du film de Spielberg. Autant dire que ça pourrait être un petit plaisir que vous aurez au milieu de cette émission.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Subura. Alors l'histoire, complexe et tortueuse, ne peut se résumer à quelques lignes, tant ce projet ambitieux fait intervenir une multitude de personnages au cœur d'un récit entrelacé de sous-intrigues. Alors on ne sera d'ailleurs guère étonné que le film a engendré une série TV. Alors pour situer l'enjeu, résumons les faits en quelques lignes. La Subura, quartier malfamé de Rome, est le théâtre d'un projet immobilier aussi douteux que démesuré. L'État, le Vatican et la mafia sont impliqués dans cette opération qui relève d'une escroquerie à l'échelle nationale et qui ne pourra s'accomplir que dans la fureur et la violence, souvent au détriment des plus faibles et démunis. En 7 jours, la mécanique va s'enrayer, la Subura va sombrer et renaître. Le grain de sable qui va donc enrayer la machine part d'un fait divers aux conséquences empiriques, la mort accidentelle d'une prostituée en compagnie d'un respectable homme politique, marié et père de deux enfants. Alors Subura, avec sa construction allégorique sur fond de fin du monde possible en commençant par un J-7 avant l'apocalypse, est sans doute le meilleur thriller politique vu depuis des lustres, une de ces productions un peu atypiques, impossible à monter dans le paysage cinématographique français, hein, trop enclin à regarder son nombril. Il enfin, y a peu de films, je dirais, politiques de cette ampleur. Hein. Alors Solima, hein, qui n'est autre que le fils du grand Sergio, hein, décédé cette année, et réalisateur de quelques chefs-d'œuvre du western italien, comme Colorado ou Le Dernier Face-à-Face, a déjà derrière lui un petit thriller aussi secouant qu'ambigu, La Cab, All Cops Are Bastards, portrait sans concession des flics de la rue agissant à la frontière de la légalité pour rétablir l'ordre. Alors Solima fils n'a pas d'emblée la candeur idéologique de son père, hein, qui était très fortement ancré à gauche. Fruit de son époque, hein, Stefano Solima dresse une situation d'Italie contemporaine avec une absence de complexe qui laisse souvent sur le carreau. Alors tous les personnages de Subura sont rongés par la corruption, la violence, le désir de domination et de s'enrichir au détriment de tout code de l'honneur et de la morale. Les petits malfrats de pacotille, aussi repoussants soient-ils dans le film, hein, sont néanmoins les plus excusables. Ils sont les seuls à se salir véritablement les mains. Avec également alors, un personnage mystérieux, hein, le chef de la mafia, vraiment mystérieux et terrifiant, qui se nomme le samouraï. Alors, c'est une figure presque anachronique du gangster à l'ancienne. Je pense que le nom le samouraï est un peu évident. Hein, ça peut être un hommage à Melville, mais je pense surtout au cinéma japonais, hein, et aux samouraïs avec leur code de l'honneur. Alors, c'est pourtant lui qui tient encore les rênes temporairement d'une ville, hein, Rome, au bord de l'explosion. Alors, ne vous étonnez pas si Subura vous rappelle l'excellent Romanzo Criminal de Michele Placido. Il s'agit également d'une adaptation d'un ouvrage du même romancier, Giancarlo De Cataldo. Alors, cette incursion nihiliste, et c'est un euphémisme, hein, dans le milieu de la pègre, pourrait rappeler certaines fictions de gauche des années 70, comme Cadabrexi ou encore Un juge en danger. Sauf qu'ici, il n'y a pas vraiment de protagoniste auquel se rattacher. Bref, une sorte de chevalier blanc qui découvre subitement l'horreur d'un système verrouillé jusque dans les hautes sphères. Ici, tout le monde, hein, victime ou bourreau, est coupable. Le simple fait de fermer les yeux est déjà un signe de rémission. Pourtant, Solima ne juge pas, ne se hisse à aucun moment en redresseur de tort. Il filme des êtres désespérément humains, attirés certes par le pouvoir, l'échelle sociale, l'argent facile, mais surtout, ils sont tous pris dans un engrenage irréversible pour survivre. Alors, Subora emporte littéralement le morceau grâce à une mise en scène ultra stylisée, peut-être un peu trop voyante et un peu trop tape à l'œil, qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs le travail plastique d'un Michael Mann, surtout lors des séquences nocturnes qui nous immergent dans une ambiance urbaine et anxiogène. Alors cette recherche visuelle s'étend à l'utilisation parfaite de la musique du groupe M83, à la sophistication constante des cadrages et des mouvements de caméra, au montage très complexe parvenant à rendre fluide un récit qui pourrait être brouillon parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages. Faut suivre, hein, c'est un peu le cinéma politique un peu à l'ancienne, hein, un peu d'inattention et on peut être très vite perdu. Alors le talent de Solima Fils est évident, alors il n'en est qu'à son deuxième film, mais c'est déjà pour moi un cinéaste assez impressionnant. Hein.
Et M83 hein, qui fait la musique, donc c'est ce qu'on a entendu au début de ta chronique. Mais bon, ça, je trouve que ça n'allait pas trop avec... quand on l'écoute seul...
Seul, ça ne donne pas du tout l'ambiance du film.
Ouais. Merci Manu. Là maintenant, on va essayer de savoir si Malick s'est remis de Tree of Life et de À la Madeleine, hein, qui a un peu déçu.
À la merveille, tu veux dire ?
À la merveille, oui.
Oui, tu as dit À la Madeleine.
Oui,
une autre version.
Voilà, en tout cas, c'est le nouveau Terrence Malick.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Donc après Tree of Life et À la merveille, Terrence Malick poursuit et conclut peut-être, il serait temps, ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de trilogie. Alors comme tu disais Manu, on aurait presque pu sortir les chroniques des deux précédents films et se contenter de les relire, puisque ce Knight of Cups reste vraiment, et voire un peu trop, dans la lignée des précédents, tournant autour des thèmes de la paternité, de l'amour, de la métaphysique, avec évidemment des plans de gens qui marchent sur la plage, des couchers de soleil et des enfants qui courent dans l'herbe. Alors le chevalier du titre, c'est Rick, que joue Christian Bale, acteur hollywoodien en pleine crise existentielle, professionnelle et familiale. Il se remémore ce conte que son père lui disait quand il était petit, dans lequel un chevalier en quête d'une perle magique finissait par se perdre dans un royaume inconnu et séduisant, oubliant même sa quête et qui il était. Alors métaphore bien sûr du monde du cinéma et de la célébrité qui ronge Rick, dans ce film qui renonce à la narration classique, Hollywood devient un univers parallèle, cauchemardesque, filmé à travers des objectifs qui le déforment et dans lequel Christian Bale erre tel un fantôme. La mise en scène est inspirée, certes, Malick enchaîne les scènes de foule pour souligner la solitude du héros, insiste sur sa perte de repères en accompagnant sa dérive d'une bande-son très travaillée, très foisonnante, qui mélange dialogue, voix off et musique symphonique.
All those years living the life of someone I didn't even know. Find your way from darkness to light. Remember.
À travers quelques bribes de conversation, sans jamais tomber dans le sordide, Terrence Malick parvient à saisir l'absurdité et la vacuité du monde hollywoodien, un peu à la façon d'un Bret Easton Ellis, la complaisance en moins. Christian Bale y est un corps étranger à tout, à l'amour, à la violence. On pourrait même dire qu'il y fait presque de la figuration, tant son texte est limité. En même temps, on peut aussi dire quoi de plus complexe pour un acteur que d'incarner un acteur qui est désincarné. Je ne sais pas si vous suivez. Donc tout cela crée surtout un tableau de sensations, un objet cinématographique que l'on peut vraiment classifier expérimental, à tel point qu'on aimerait bien parfois avoir juste une scène de facture classique avec deux personnes qui parlent, une scène simplement avec des tenants et des aboutissants. Bref, autre chose que cet enchaînement de monologues sur fond de paysages grandioses. Car le problème majeur se situe sans doute là. Malick semble avoir plus d'amour pour ses paysages que pour ses personnages, ce qui est un peu dommage puisque d'une, il remplit son film de tout un tas de belles personnes qu'il ne filme même pas, et de deux, il ébauche à peine des personnages que l'on ne voit que le temps de quelques scènes et ça génère vraiment une frustration. Alors le film est agencé en plusieurs parties, hein, chaque partie portant le nom d'une carte de tarot et chaque carte correspondant à une femme de la vie du personnage principal. Le souci, c'est que toutes ces femmes, toutes très belles, toutes différentes, existent à peine à travers le peu de temps pendant lequel on les voit. Le film se constitue d'une redondance de scènes identiques. Christian Bale court après une jeune fille qui rigole. Christian Bale l'embrasse en disant des trucs métaphoriques. La fille lui répond des trucs métaphysiques. Bref, cet enchaînement se répète avec différentes actrices pendant deux bonnes heures. Alors, on a Cate Blanchett, on a vraiment une bonne dizaine de femmes. Et le procédé que l'on pouvait trouver séduisant au début et qui fonctionnait comme un poème visuel devient presque une parodie de Terrence Malick finalement. Alors même Nathalie Portman, qui apparaît quand même au bout de 1h30, ne parvient pas à avoir un vrai rôle. Est-ce que ces personnages fantomatiques servent le vrai sujet du film, c'est-à-dire la perte de soi ? Peut-être, mais bon, moi je pense qu'ils privent surtout le film de toute émotion et on en sort quand même peu convaincu et assez lassé. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Oui, là je pense qu'il est vraiment arrivé au bout de son style. Là je pense qu'il faut qu'il tente autre chose parce que là il est vraiment au bout de ce qu'il a tenté pendant trois films. Faut pas qu'il aille plus loin parce que là on a vraiment atteint le
Il va peut-être faire un Star
paradis.
Wars.
Bah oui, voilà.
Ça le rock un crêpe. Voilà, c'est ce qu'on propose. Donc c'est
voilà,
Night
c'est toujours en salle. Hein. À voir si vous voulez.
Eh bien, nous allons passer d'un grand du cinéma, Terrence Malick, quand même, il a fait peu de films, à quelqu'un qui est un peu plus boulimique, c'est Steven Spielberg.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il ? C'est une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Le Pont des Espions, Steven Spielberg est loin d'en avoir fini avec le cinéma, et ça c'est plutôt une bonne chose, et aussi eh bien, avec l'histoire. Après Lincoln, Munich ou encore La Liste de Schindler, le voilà qui traite d'un pan de l'histoire mondiale, ici la guerre froide. Alors nous sommes au début des années 60, James Donovan est avocat à Brooklyn, son job eh bien, ce sont les assurances. Mais son quotidien va être bouleversé quand on lui propose de défendre un espion soviétique. Même si défendre est un bien grand mot, puisqu'on lui demande plutôt d'assister l'espion afin qu'il ait un semblant de procès, c'est quand même le monde civilisé des États-Unis.
Je ne suis pas sûr de vouloir y toucher.
L'accusé n'a pas d'avocat dans ses relations. La Cour fédérale nous a collé l'affaire. Le Conseil de l'Ordre a voté. Vous êtes choisi à l'unanimité.
C'était important pour nous. C'est important pour notre pays, Jim, qu'on voit que cet homme a droit à un procès loyal. C'est la justice américaine qu'on jugera.
Oui, évidemment. Présenté comme ça, c'est un honneur, bien sûr. Mais vous, Lynn, je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des lustres.
C'est comme se remettre au vélo, non ? Vous vous étiez distingué à Nuremberg.
Oui, mais j'étais dans l'équipe de l'accusation.
Ce n'est pas la question. Le droit pénal ne vous est pas étranger. Jim, regardez la situation. L'homme est publiquement vilipendé.
Et je le serai aussi.
Oui, dans les milieux mal informés. C'est exactement pour ça qu'il faut le faire, et le faire dans les règles. Sinon, on va croire que notre système judiciaire traite les affaires par-dessus la jambe.
Alors Donovan était-il le meilleur homme pour cette tâche ? Eh bien, il ne fait rien de ce qu'on attendait de lui, ni la justice, ni les politiques, et pas plus la CIA, qui en matière d'espion aimerait bien quand même maîtriser son sujet. Eh bien, ils lui en tiennent rigueur. Alors voilà un dialogue fondateur entre Donovan et un agent du contre-espionnage américain qui cherche à obtenir des renseignements. Il demande à Donovan de trahir son serment et de devenir un patriote avant tout, sous prétexte qu'il serait déjà coupable et que l'Amérique, en ces temps redoutables, court un grand danger. Donc, l'espion est convaincu.
Nous devons savoir. Ne jouez pas les Boy Scouts avec moi. Il n'y a pas de règlement, là.
Vous êtes l'agent Hoffman, c'est ça ?
Oui.
D'origine allemande.
Oui, et alors ?
Je m'appelle Donovan, irlandais, des deux côtés, mère et père. Je suis irlandais, vous êtes allemand. Mais qu'est-ce qui fait de nous des Américains ? Une seule chose. Une. Le règlement. On l'appelle la Constitution. Nous en respectons les règles. Et c'est ce qui fait de nous des Américains. Uniquement ça. Alors ne dites pas qu'il n'y a pas de règlement et ne hochez pas la tête comme vous le faites, enfoiré.
Alors toute cette partie du film qui dure un bon tiers agit comme un prologue, fait le constat d'un monde flippé, paranoïaque, où les soviétiques sont les ennemis à combattre avant que Spielberg nous emmène dans la vieille Europe pour se frotter au bloc de l'Est. Car fort de son succès, de son acharnement dans le dossier, Donovan a une promotion dont il se serait bien passé. Il doit donc échanger le russe contre un américain qui faisait un vol de surveillance, pour ne pas dire d'espionnage, et qui s'est fait pincer par l'Union des républiques socialistes. Soviétique. L'endroit de l'échange, eh bien, c'est Berlin, la ville coupée en deux. Alors, on n'est plus dans le film procès avec l'exposition des valeurs d'une époque, mais on bascule clairement dans le film d'espionnage avec une dose de thriller. On entrevoit les mécanismes d'une négociation au plus haut niveau. Donovan doit contenter tout le monde, URSS, USA et puis, tant qu'à faire, RDA. Alors, le pont des espions tient ses promesses. Le film qui commence brillamment avec les gestes quotidiens au-dessus de tout soupçon de l'espion russe à New York. Petit appartement, petite promenade, petit tableau, car l'homme semble avoir deux passions, la peinture et la cigarette. Eh bien, s'achève à Berlin qui se fracture alors. Inspiré d'une histoire vraie, mais tout de même écrite par les frères Cohen, on sent leur griffe douce amère, eh bien, le pont des espions ne cherche ni les esbroufes ni le clinquant. Plus les hommes seront ordinaires, plus le décalage avec les enjeux sera fort. Quant à la mise en scène, bien Spielberg semble rendre une sorte d'hommage au film du genre. Si on ajoute l'univers des années 60, la lumière légèrement fanée et saturée de couleurs, les nombreux mouvements de caméra, on a vraiment l'impression de regarder un film sorti tout droit de l'époque. Autant dire que Le Pont des Espions est très classique, mais très réussi aussi. L'histoire, l'interprétation de Tom Hanks à Mark Rylance, interprétant l'espion russe, restant impassible. La mise en scène aussi nous réconcilie avec le cinéma, grand spectacle, à mon sens. Voilà. Le Pont des Espions que tu as vu, Manu, en quelques mots.
Oui, bien sûr. Je trouve que c'est ce qu'on appelle un bon film hollywoodien, classique. Et puis, je trouve que le côté voyant, très voyant de la mise en scène, est vraiment en accord avec le sujet, puisqu'il n'y a pas de... On ne traite pas l'espionnage avec des intrigues complexes. Tout est mis sur la table, en fait. Tout est évident, simple. Et c'est un peu cette histoire du monsieur Tout-le-Monde qui va un peu changer...
La phase de l'histoire. Qui va prendre part à l'histoire. Voilà.
C'est vraiment le cinéma des années 40-50 que John Ford pouvait réaliser, ou même quelqu'un comme Frank Capra. C'est efficace et c'est très, très bien photographié. Ouais. Et je trouve qu'il y a une bonne touche d'humour aussi.
Ouais, ça, c'est là on sent les frères Cohen.
Un comique qui revient souvent comme est-ce que ça peut servir chaque fois ce que demande l'espion russe.
L'espion soviétique qui reste impassible et effectivement Tom Hanks qui interprète l'avocat se demande s'il pourrait pas changer un peu de... Comment c'est possible d'être aussi impassible et l'autre il dit mais est-ce que ça aiderait finalement d'être différent effectivement.
Alors,
il y a un petit comique de répétition.
Peut-être une faute de goût vers la fin, un peu de sentimentalisme un peu exagéré, mais ça c'est un peu la marque de fabrique de Spielberg.
Oui, il est question de la famille à la fin, mais ça c'est pas étonnant chez Spielberg. Mais il y a une petite touche de pessimisme à mon sens.
Il devient vieux, c'est tout. Il devient vieux.
Il va mourir bientôt.
C'est ça, on le sent. Ça nous donne l'occasion, cette sortie du Spielberg, de jouer un blind test. Et voici maintenant le premier extrait. Découvrez le titre.
Dites-moi comment...
Chut, ils dorment.
Pardon.
Dites-moi comment ça marche.
Le lait photon agit à la fois comme liquide nutritionnel et conducteur. Il améliore les images que chacun d'eux reçoit. Nous appelons la femme Agatha, les jumeaux sont Arthur et Dachel. Nous scannons par le moyen de la tomographie optique. De minuscules points lumineux courent sur toute la longueur du couvre-chef et sont relus après absorption par le tissu cérébral. En d'autres termes, nous voyons ce qu'ils voient. Ils ne ressentent aucune douleur. Nous leur bourrons le crâne de dopamine et d'endorphine. De plus, nous maintenons un contrôle attentif sur leur niveau de sérotonine. On ne veut pas qu'ils tombent dans un sommeil trop profond. On ne peut pas non plus les garder éveillés.
Il vaut mieux ne pas les considérer comme des humains.
Alors, premier extrait, c'est trouvé, c'est
Minority Report.
Voilà, tout à fait. C'était un projet, on a dit, de Kubrick, mais qu'il n'a pas pu mener à bien.
C'est AI qui était un projet de Kubrick.
Ah bon ? Bon, pardon.
Minority Report, c'est une adaptation de Kadic.
On coupera ceci au montage. Ce sera fait dans les règles. Deuxième extrait, toujours un film de Spielberg.
On se doute jamais de rien. On se méfie jamais de rien. On se contente de rouler sa bosse en pensant que certaines choses sont immuables. Comme le fait de pouvoir rouler tranquillement en voiture sans qu'un inconnu cherche à vous tuer. Et puis un jour, il vous arrive un truc idiot. Un événement qui n'occupe que 20 à 25 minutes de votre vie, mais qui suffit à briser tous les liens qui vous rattachaient à votre univers. Et c'est comme si, tout à coup, vous vous retrouviez comme un homme primitif dans la jungle. Allez, oublie ça, le cauchemar est fini maintenant. Ouais, c'est terminé.
Alors ça a été trouvé.
Eh bien c'est Duel, qui est en fait un film télé à la base. Oui. Premier film de Spielberg.
Premier film de Spielberg, 1971, un nouvel extrait.
Ce n'est pas une question d'assiduité en classe. J'ai le regret de vous informer qu'au cours de la semaine passée, Franck a enseigné l'espagnol aux élèves de Madame Glaser.
Il avait quoi ?
Votre fils s'est fait passer pour un professeur remplaçant. Il leur a fait cours, il leur a donné des devoirs. Madame Glaser était souffrante et il y a eu confusion avec la vraie remplaçante. Votre fils a tenu une réunion de parents d'élèves avant-hier et il a annoncé à la classe qu'elle irait voir un spectacle de flamenco dans le cadre des sorties scolaires. Vous voyez le problème que nous avons.
Alors, ça a été trouvé, Marine?
Oui, c'était Arrête-moi si tu peux.
Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Nathalie Baye, Amy Adams, voilà. Sacré casting, nouvel extrait.
Démontez-la, c'est trop dangereux!
Elle dit que les fondations ont été mal coulées et qu'il faut démonter la charpente. Allez, je lui ai pourtant dit que c'était des baraquements, que c'était pas un hôtel de luxe. Putain de salope d'ingénieur juif. Putain de salope!
Air Commandant, on doit démonter toute la charpente et toute la fondation doit être recoulée. Sinon, il y aura un affaissement très net à la façade sud du baraquement. Affaissement et ensuite écroulement.
Vous êtes ingénieur?
Oui. Mon nom est Diana Ryder. Je suis ingénieure des travaux publics, diplômée de l'université de Milan.
Ah, une juive cultivée, comme Karl Marx lui-même.
Alors, ça a été trouvé, évidemment, trop d'indices. C'est
la liste de Schindler.
C'était pas moi, c'était Manu.
Ah voilà, 1993 pour ce film. Avant-dernier extrait.
Quelqu'un peut me dire ce qui est logique dans tout ça? Je veux dire, ça rime à quoi de risquer la vie de 8 de nos gars pour sauver celle d'un seul type?
20 degrés.
Quelqu'un veut répondre à ça?
Ryben, t'as pensé à la mère de ce pauvre imbécile?
Eh hey Doc, j'ai une mère, moi aussi. Je veux dire, t'as une mère, le sergent a une mère. Je parie que même le capitaine a une mère. Enfin, peut-être pas le capitaine, mais tous les autres ont une mère.
Alors bon, c'était trop facile, c'était...
Soldat Ryan.
Voilà. Alors, il faut sauver le soldat Ryan, donnons le titre complet. allez, un petit bonus cette fois-ci, trop facile.
C'est ici que Forrestal a été tué.
Un de vos amis?
Un concurrent, un grand archéologue. Et il était fort, très fort.
Seigneur, personne n'est sorti d'ici vivant. N'y allez pas.
Eh oui, on lui dit de pas y aller, et qu'est-ce qu'il fait?
Il y va.
Il va.
Voilà, c'est ça.
C'est l'introduction, je pense, des Aventuriers
ouais,
de
c'est pas loin
perdue.
Du début, oui, effectivement. Aventuriers de l'Arche perdue, grand, grand succès de Steven Spielberg, ainsi s'achève ce blind test.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie, hein.
Et on passe donc à Strictly Criminal. Boston, milieu des années 70, mafia irlandaise et mafia italienne se livrent une guerre sans merci sous les yeux d'un FBI impuissant et débordé. Jimmy Bulger appartient au camp des immigrés irlandais, petit caïd sortant de 10 ans de prison à Alcatraz. Il est obsédé depuis par la trahison potentielle de ses proches. Le pouvoir qu'il a acquis sur le quartier à force de trafic et de règlement de comptes le rend dangereux pour la mafia italienne qui souhaite le faire assassiner. L'agent fédéral John Connolly lui propose une alliance. S'il sert d'indic au FBI, ils le protégeront. Rapidement fasciné par le gangster, John Connolly glisse de plus en plus du côté de la pègre, faisant dégénérer l'accord au-delà de la légalité. La mise en scène fait le choix d'une succession de témoignages, ou plutôt d'interrogatoires d'anciens hommes de main de Bulger, puisque c'est donc une histoire vraie, qui par différentes anecdotes retrace le portrait de celui qui était le crime personnifié, autrement dit donc en anglais Strictly Criminal. Par ailleurs, le vrai titre est Black Mass, alors je ne sais pas du tout pourquoi, hein, ils l'ont traduit par une autre phrase en anglais. On écoute un petit extrait de la bande-annonce.
Des leçons tu vas recevoir encore et toujours pendant toute ta vie. Et il faudra que tu en prennes de la graine, pigé? Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est quand et où tu le fais. Et à qui tu le fais ou avec qui? Et si personne le voit, ça s'est pas passé.
Jimmy, il a 6 ans. T'es sûr que c'est la meilleure chose à dire à ton gosse?
Oui.
Le principal intérêt de Strictly Criminal, c'est bien sûr Johnny Depp, que vous aurez du mal à reconnaître. Le maquillage n'est pas très bien réussi, je trouve. Alors si vous avez la curiosité de chercher les photos du vrai Bulger, vous constaterez qu'il était plutôt très bel homme, avec un physique de jeune premier, et puis ensuite il avait une tête de quinquagénaire assez joviale. Et là, on a donc volontairement composé à Johnny Depp un faciès particulièrement effrayant. Ce qui en résulte, c'est quand même qu'on a... Enfin, que l'on peine à croire à ce personnage qui détonne vraiment au milieu des seconds rôles plus vrais que nature. avec ses sourcils décolorés, son faux crâne et ses lentilles bleues qui ne font pas très réaliste, Johnny Depp se retrouve quand même avec une tête de vampire moderne, pas si loin finalement de ses rôles burtoniens. Et c'est dommage car l'acteur parvient justement à rompre avec toute la galerie de personnages répétitifs qu'il avait interprétés ces dernières années en réalisant une très bonne performance d'acteur et sans avoir besoin de forcer son jeu. Alors le reste du casting est également très impressionnant, pas une seule tête inconnue dans ce film qui compte quand même une bonne trentaine de personnages. On trouve entre autres Dakota Johnson, rescapé de Fifty Shades of Grey, et donc on peut enfin apprécier le talent. Il y a également Benedict Cumberbatch, Juno Temple, ça c'est pour toi Manu, Kevin Bacon et beaucoup beaucoup d'autres. Le film de Scott Cooper, sans être un chef-d'œuvre scorsésien, s'en rapproche de par la mise en scène nerveuse et le thème assez classique des relations ambiguës entre flics et voyous. Le suspense est bien amené, le scénario suffisamment bien écrit pour ne pas créer de longueur. Seul point noir, à mon sens, le film se complaît beaucoup dans la violence, sans forcément l'esthétiser, mais en accumulant des scènes de violence gratuites qui soulignent donc le côté psychopathe du personnage. Et moi, j'ai vraiment trouvé que ça rendait le film un peu indigeste. C'était un peu trop, voilà, c'était gratuit, c'était très violent, et c'était un peu trop, c'était pas la peine, voilà, d'en mettre autant. Donc, Strictly Criminal, ça reste quand même un bon film. Je vous le conseille à voir évidemment en VO, c'est encore en salle.
Et un autre film est toujours en salle, c'est celui de, j'ai oublié son prénom, Donzelli.
Valérie Donzelli. C'est bien, on voit que vous êtes concerné.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, quatrième long métrage de Valérie Donzelli, après notamment le succès public et critique de La guerre est déclarée, suivi du décevant Main dans la main, Marguerite et Julien est né sous d'étranges auspices, puisque c'était un projet avorté de François Truffaut, qui voulait alors raconter cette histoire d'inceste, enfin d'amour surtout, entre un frère et une sœur, inspirée d'un fait réel situé entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. C'était les amants, le frère et la sœur ont été, je crois qu'ils ont été décapités en 1603. Voilà pour la petite info.
Vous rigolez pas avec l'inceste et la sodomie à cette époque.
Alors, très mal accueilli à Cannes, où il était en compétition officielle, Marguerite et Julien ne fait malheureusement pas partie de ces films injustement sacrifiés dans des festivals parce que simplement ils n'ont souvent pas leur place alors que ce sont des films intéressants. Le film de Valérie Donzelli est un ratage intégral alors que franchement je n'avais pas envie de traîner dans la boue cette fantaisie désuète qui est pourtant animée d'une sincérité, d'un désir de faire du cinéma qui se révèle presque touchant.
Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer.
Marguerite, Julien, revenez!
Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Juliette m'a dit que Joséphine les avait vus au marché.
C'est pas vrai.
Si, si, je te jure, elle les a même vus s'embrasser.
Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer, mais rien n'y fera. On ne peut pas séparer le sang des veines, la sève de l'arbre, ni le sel de la mer.
Marguerite et Julien débutent pourtant sous les meilleurs auspices. Alors celle du conte de fées, léger, plein de fraîcheur, anachronique tant par les détails que par une narration qui nous renvoie en pleine nouvelle vague. Alors la référence la plus évidente, mais aussi la plus écrasante, outre Truffaut et aussi Jacques Rivette, qui avait réalisé un film qui s'appelait Histoire de Marie et Julien. C'est pour ça que je confondais un peu les deux titres. Alors c'est celle de Jacques Demy, pas seulement à cause des hélicoptères qui apparaissent en plein XVIe siècle, comme dans Peau d'âne, mais aussi par la légèreté de ton, la vitalité de l'ensemble et la direction d'acteur qui semble tout droit sortir d'une pièce pour enfants. Alors, passé la mini-surprise de se dire « Ah, nous voilà enfin dans un film français qui ose prendre des chemins de traverse », on déchante très rapidement car rien ne fonctionne passé le début prometteur. À commencer par le couple Jérémy Elkaïm et Anaïs de Moustier, transparents l'un et l'autre en dépit d'un jeu en sur-régime. Alors, à aucun moment sans vibrer une émotion charnelle, un amour grandissant entre eux, leur relation scandaleuse n'a au final rien de choquant, puisqu'on a même l'impression de voir un frère et une sœur pris dans la tourmente d'une passion impossible. Enfin, on n'a pas l'impression, plutôt. Mais de jeunes adultes qui s'aiment et profèrent des banalités affligeantes autour de jeux très infantiles. Alors, l'intention très louable de Donzelli n'est pas de réaliser un film provocateur, certes, elle l'a dit à longueur d'interview, cette semaine, on peut lire ça un peu partout. Et tant mieux, hein, mais une sorte de fable candide et lyrique, bravant la morale et les institutions avec un ton narquois. Les éléments anachroniques maintiennent parfois l'intérêt, comme cette partie de baby-foot cocasse au milieu d'une pièce d'un château en plein 16e, enfin bon, plein 16e siècle, hein, pas 16e arrondissement. Ou encore les micros installés lors du procès, mais c'est peu en regard de l'ennui que procure cet objet trop disparate et référentiel pour accrocher le regard. La mise en scène est à la fois étriquée et engoncée dans des affieteries inutiles. Elle manque de souffle et s'appuie sur des critères esthétiques vieillots et une absence de rythme. Pourtant, l'effort d'écolière studieuse de Donzelli est présent, avec ses effets de mise en scène aussi datés que voyants, à commencer par les arrêts sur image, un peu à la Julie Jim, ces scènes qui... Il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup de références aussi à Cocteau, pour le côté, un peu bricolage. Mais en fait, rien ne fonctionne vraiment, quoi. Sauvons quand même un beau moment de cinéma vers la fin, hein, l'échappée de Julien et de Marguerite pour rejoindre la Grande-Bretagne, offre néanmoins une belle scène nocturne d'inspiration quasi fantastique, avec ses silhouettes encapuchonnées encerclant du haut de la falaise des amants en fuite. Alors pour peu, on se croirait presque là dans un film bis fantastique à la Jean Rollin.
C'est peut-être involontaire, là, encore.
Non, je pense que là, c'était pas volontaire. Toutes les autres références sont volontaires, mais celle-ci, je ne pense pas. Donc, ouais, un ratage que j'aurais aimé un petit peu déforme davantage, malgré tout.
Eh bien, on se rattrapera sur les précédents films de Valérie Donzelli qui avaient plutôt marqué les esprits.
Tous, hein.
Pas tous.
Pas tous. Ben non, enfin.
À part la main, c'était pas terrible.
Voilà, celui-là était quand même assez raté.
Bon, eh bien voilà. Ça en fera pas... Ainsi s'achève Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons parlé d'un film qui est sorti le 9 décembre et puis des films qui sont sortis précédemment. Eh bien, la semaine prochaine, ce sera un peu le même mécanisme. On ne sait pas encore avec quoi. Voilà.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.